bienvenue sur Radio Linguistica, la radio de partage des connaissances de la DGT. Alors c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque j'ai le grand plaisir d'interviewer Fabian Diego Luis, qui est jusqu'à la fin de ce mois d'octobre mon chef d'unité à la DGT. Bonjour Fabian, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à toi d'avoir pensé à cette idée. Et je me sens un peu honteux d'être protagoniste de ce que je veux
pas. Oh, mais non, mais pas du tout. Et Fabian, tu es responsable de l'unité R4, qui est une unité horizontale de la DGT, qui est intitulée Professional and Organizational Development. Et tu es sur le point de partir à la retraite après une longue carrière de plus de 30 ans au service de l'Union européenne. Alors, nous profitons de ta venue à Bruxelles, puisque normalement tu es basé à Luxembourg, pour revenir sur ton parcours et sur ton expérience au sein de plusieurs institutions européennes. Mais d'abord, je sais que tu as eu une vie avant l'Union européenne. Tu as commencé par enseigner la littérature et la langue espagnole à des étudiants étrangers à l'université de Salamanque. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as quitté la littérature et le monde académique pour les institutions européennes ?
Le motif principal a été la curiosité. La curiosité personnelle. J'avais constaté que, par exemple, l'Espagne et la France sont passés le 19e siècle à se battre. Et que maintenant, c'était impossible. Et pourquoi c'était impossible ? Et c'était impossible parce qu'on avait construit quelque chose de formidable, que c'est une des grandes choses qui s'est passée dans l'histoire contemporaine du monde. Et je voulais le voir en direct, en vif et en direct. Et ça, c'était le motif idéologique principal pour lequel je me suis dit, il faut essayer l'aventure.
Bah justement, puisque en 1986, donc, l'Espagne adhère à l'Union européenne, et c'est à ce moment-là qu'un an plus tard, en 1987, toi, tu débutes comme assistant à l'Office des publications, donc ce qu'on appelle l'OP. Donc, c'est l'organisme qui est chargé de publier tous les documents officiels des institutions, dont le journal officiel. Alors, qu'est-ce que tu faisais à l'époque, en quelques mots, à l'Office des publications ?
Mon travail, essentiellement, était la validation de la publication du journal officiel en langue espagnole. On recevait le texte, déjà traduit vers l'espagnol, on vérifiait qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'il n'y avait pas de faute, et on donnait les bons à tirer final. On avait la responsabilité, si on peut dire, de signer que ce qui était publié dans ce journal officiel version langue espagnole était correct. Il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas d'erreur. Bon, il y avait toujours des rectificatifs, mais en principe, on ne faisait pas d'erreur. Et on faisait la correction des manuscrits qu'on recevait en Word. Après, on faisait la correction de ces preuves. Et à la fin, on allait à l'imprimerie à faire la dernière vérification de deuxième, troisième, quatrième épreuve pour et donner les bons à tirer et valider ces textes en espagnol.
C'est ça. Et donc, tu as fait partie des premiers hispanophones à arriver à l'Office des publications, alors ?
Oui, j'étais un des premiers. Il y a eu déjà d'autres collègues qui sont arrivés, qui se sont occupés de faire la correction du droit dérivé. Mais les droits dérivés, les volumes étaient énormes. C'était une quantité énorme. Et les pauvres, ils n'avaient pas la possibilité pratiquement de corriger.
C'est ça.
C'est-à-dire, il passait de la gauche à la droite les documents en signant « c'est bon » et fermait les jeux et bonne chance. D'accord. Parce que les volumes étaient énormes, il fallait les corriger et les valider rapidement. Il y a eu des collègues qui sont arrivés avant moi, mais très peu. C'était une petite équipe de 5-6 personnes et après c'est moi qui est arrivé.
C'est ça. Et alors, en 1988, tu arrives à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est l'année où le tribunal de première instance a été créé. Et alors, pour quelles tâches t'a-t-on recruté à la Cour de justice ?
D'abord, j'ai travaillé aux greffes de la Cour. Je m'occupais du suivi et de la procédure des affaires en langue espagnole et française. On était ensemble, l'équipe espagnole, l'équipe française. Il y avait deux personnes francophones et nous étions deux hispanophones, bien que la deuxième personne qui était avec moi, elle avait été élevée en Belgique, elle était plus à l'aise avec les Français qu'avec l'espagnol, elle souffrait beaucoup avec l'espagnol parce qu'en réalité, elle était née ici, elle avait un excellent français, il faut le dire. Alors, je m'occupais un peu de faire les suivis de toutes les affaires espagnoles dans les domaines procédurales, toutes les affaires espagnoles qui arrivaient à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Grande Cour, pas au tribunal. Mmh. Ça, c'était une première étape. Après, on m'a demandé de changer à ressources humaines. À l'université, dans les cours internationaux, j'avais fait la sélection des profs. Et c'était écrit dans mon CV. Mmh, mmh. Et alors, ils avaient vu ça dans les CV. Et les responsables, les chefs de division du personnel, M. Hubot à l'époque, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, on a 7 postes au service du personnel, est-ce que vous ne voulez pas venir? Et là, mon premier dossier a été les stages.
Aha.
Il n'y avait pas de programme de stage à la Cour de justice, et j'ai mis en place un système de stages. Mais ma tâche principale, ressources humaines, service du personnel, était la sélection et le recrutement.
Ah, oui.
On faisait les concours. Je crois que j'ai organisé autour d'une centaine de concours.
Sans concours.
Entre juristes linguistes, secrétaires, etc. Et le recrutement. Jusqu'au jour où la personne arrivait à la cour. Les jours que la personne arrivait à la cour, on avait fixé ses droits. Tout ça, fixation des droits et le reste de sa carrière, c'était un collègue qui s'en occupait. Et je faisais toute la sélection, le recrutement, etc. Mais pendant 10 ans, oui, on a organisé une centaine de concours. 10 par année, c'est normal. On était 3. Hein? On n'avait pas besoin d'une grande infrastructure. Et on faisait tous les 3, moi et 2 secrétaires, on faisait tous les 3 les concours à la cour. Et on voyageait partout en Europe pour faire les concours à gauche, à droite. On rencontrait les candidats, etc. etc. Et c'était un travail très intéressant, très délicat, très souvent triste. Quand tu regardais devant toi 1500 candidats, et tu savais qu'à la fin de ces 1500 qui voulaient travailler pour l'Union européenne, pour la Cour de justice, il y aurait uniquement 15. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y aurait 1495, oui, 85 déçus et tristes, jeunes, avec l'espoir, avec la formation, avec l'enthousiasme. Ça, c'était la partie triste. La partie joyeuse, c'était que les jours que tu recrutais une de ces personnes qui était dans la liste et qui entrait en fonction, et que tu pouvais lui dire « Bonjour, bienvenue, félicitations ».
Et tu dirais que tu penses avoir recruté combien de personnes pendant cette période-là?
Autour des 400 personnes. Wow. Et la Cour de justice était 450, hein, quand je suis arrivé, 500. Et quand je suis parti, c'était 850. Et effectivement, il y a 400 personnes, plus les turnovers, c'est-à-dire tous les départs qu'on a dû remplacer. Et je crois que, oui, j'ai recruté autour de 400 personnes à la Cour de justice parce que les équipes de traduction ont été très renforcées suite à la création du tribunal de première instance. Et à la Cour de justice, il y avait une stratégie pour les juristes assez claire, hein, facile à suivre. La plupart des personnes étaient recrutées en tant que juristes linguistes. Ils avaient un diplôme en droit. Oui. En même temps, ils avaient les connaissances linguistiques, mais c'était juriste. Oui. Après, ceux qui voulaient se développer, ceux qui avaient le potentiel pour se développer, ils passaient à d'autres services. On alimentait les autres services avec ces juristes linguistes et on recommençait. On faisait de nouveau la liste des réserves juristes linguistes pour de nouveau alimenter dans un premier stade les services de traduction et les services de traduction alimentaient à son tour les restes des services, la recherche doc, les cabinets, la bibliothèque, ressources humaines, tous les autres services, les greffes, oui, aussi étaient alimentés par cette voie.
Et alors, on en arrive en 1998, oui, où cette fois, tu es recruté au Comité économique et social, le CES, 4 ans après la création du Comité européen des régions. Mmh. Est-ce que là aussi, tu as organisé des concours de recrutement? Tu étais de nouveau aux ressources humaines?
J'étais à ressources humaines, mais là, j'ai fait un autre type de tâches. J'étais concours, j'ai organisé un concours. Un concours pour le Comité économique et social, c'était pour traducteurs de langue finnoise. La seule chose qui était particulière dans ce concours, c'était la première fois que le Comité économique et social organisait lui-même un concours. Parce que jusqu'à ce moment-là, le Comité recrutait à partir des listes de réserve des concours des grandes institutions. Mm-hmm. Commission, conseil, parlement, etc., etc. Mais c'est la première fois qu'on a fait nous-mêmes un concours. Parce que bon, il n'y avait rien dans les listes de réserve des autres institutions. À ce moment-là, il y avait des postes vacants. Mais ma tâche au Comité économique et social, du point de vue des ressources humaines, a été très satisfaisant et très intéressant. Il y avait des problèmes entre les deux comités à niveau de la gestion des ressources humaines. Beaucoup de problèmes. À tel point qu'il y avait eu même des grèves. Pour différentes circonstances, je ne vais pas entrer. Mais ma tâche, confiée par les deux secrétaires généraux de l'époque, les deux comités, était faire la paix. Faire la paix entre les deux comités en créant des règles communes qui pouvaient être acceptées par tous les membres de deux comités, par tous les personnels de deux comités. C'était un travail de 300. J'étais 300 là-bas. Je me suis investi. J'étais seul. Ma famille est restée à Luxembourg. J'ai fait ça 8h du matin, 8h du soir. Oui, parfois, la sécurité devait venir m'ouvrir la porte pour que je puisse partir le soir. Mais c'était un travail énorme, mais c'était très satisfaisant. Mm-hmm. Parce qu'on a créé un nouveau système de promotion, on avait de nouveau créé de nouvelles règles pour la gestion des horaires, de nouvelles règles pour la formation, pour toutes les règles et toutes les normes, et on les a mis en place, devaient être communes aux deux comités. Mm-hmm. Tout en respectant les pouvoirs de nomination de chaque comité, il fallait que les pouvoirs de nomination de chaque comité, les présidents, les comités administratifs, les secrétaires généraux, acceptent ces règles. Mm-hmm. Oui. Et aussi les personnels, les comités de personnel, les syndicats, les comités économiques et sociaux avaient un comité du personnel très fort, mm-hmm. par nature. Il y a un des groupes politiques dans les comités économiques et sociaux, c'est le groupe des travailleurs, mmh. oui, où il y a tous les syndicats européens représentés. Et ils savaient, ils se sentaient forts, ils se sentaient forts dans cette activité, dans ces actions, parce qu'ils avaient le support d'un tiers des membres du comité. Mmh. Alors, il fallait les convaincre. Pour l'anecdote, les jours qu'on a présenté les nouveaux systèmes de promotion dans une assemblée générale de deux comités, j'avais à droite de moi les présidents du comité économique et social, du comité du personnel. Comité économique. À ma gauche, les présidents du comité du personnel du comité des régions. Oui. Et je n'ai pas ouvert la bouche. Parce que ce sont les deux présidents, qui ont présenté cette option comme la meilleure option pour tous. Et il a été adopté par les personnels à l'unanimité. Pas d'opposition. Mmh. Tout le monde était convaincu, on a expliqué, on les a donné à tous les règles. C'était absolument transparent. Mmh. Hein? Mmh. Et ben, j'étais fier de dire, grâce au comité du personnel, aux deux comités du personnel, on a réussi à avoir un système commun qui permet le développement des carrières des collègues de deux institutions d'une manière uniforme, logique et juste.
Et alors, au bout de ces 3 années passionnantes, donc tu décides quand même de rentrer à Luxembourg. Et en 2001, tu es de retour à l'Office des publications pour aider à préparer le Big Bang de 2004. Oui. Donc 2004, c'est l'année où l'Union européenne a accueilli 10 nouveaux États membres. Et une des conséquences de cet élargissement, ça a été que l'Office des publications a dû publier le journal officiel et la législation de l'Union européenne tout à coup dans 10 langues supplémentaires. Donc beaucoup de nouveaux postes ont dû être créés pour gérer ces nouvelles langues et tu as été chargé d'aider à organiser des procédures de sélection et des concours dans toutes ces langues officielles. Alors, comment vous vous y êtes pris?
Oui, bon. D'abord, ma famille est restée à Luxembourg. Alors, ma famille reste à Luxembourg et mon directeur de la Cour de justice était nommé directeur général de l'Office des publications. Quand il est arrivé à l'Office des publications, il s'est retrouvé dans la situation que déjà les postes existants, la moitié, étaient remplis par des agents, mais pas par du personnel permanent. Ce qui était une situation très instable. Et par la suite, qu'il y avait des centaines de postes qui allaient être créés, qui avaient été accordés par l'autorité budgétaire pour les 10 nouvelles langues. Il m'a contacté au comité économique et social. Il m'a dit, Fabien, j'ai un problème, peut-être tu peux m'aider. Et il m'a proposé de venir à Ressources humaines pour faire les concours et remplir les postes. Alors, on a profité de l'opportunité. À ce moment-là, on a créé aussi EPSO. Et j'ai parlé avec les directeurs d'EPSO de l'époque, Eric Alskov, avec lesquels j'avais collaboré dans les concours par le passé, quand j'étais responsable des concours à la Cour de justice. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai fait les concours... quand est-ce que tu peux me faire les concours correcteurs? Il m'a dit, en 2010, pas avant. Notre calendrier, il est bourré, Fabien. Je n'arriverai pas avant 2010. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Le 1er avril 2004, le journal officiel doit être publié dans ces 10 nouvelles langues. Alors, je te propose une chose. Et tu sais que je sais comment on fait un concours. Alors, moi, je l'ai fait. Je mets le nom EPSO. Oui? Mais je l'ai fait. Tu me laisses la liberté de le faire. Si je me trompe, tu peux me tuer. Mais je l'ai fait en toute indépendance. J'avais le journal officiel sous la main. Il était publié là-bas. Alors, on a publié 24 concours. Après, on a dû refaire certaines langues, hein, estonien, letton, parce que la liste n'était pas assez. Et on a publié les 24 langues, hein, des concours, avec une équipe de 4 assistants qui m'ont aidé. Et il faut dire que parmi ces 4 assistants, 3 d'entre elles, ils sont devenus administrateurs par la suite, hein. C'est-à-dire que sélectionner, ça n'a jamais été mon problème. C'est-à-dire, je peux entrer dans une salle, je regarde les personnes et je me fais une idée de chacun. C'est très facile. C'est une question de métier, c'est une question d'année, c'est une question d'expérience, d'avoir vu des gens. Alors, j'ai recruté 3 personnes, 3 assistants, et on a fait 4 vagues de concours, de 5 concours chaque fois. 5 vagues de 5 concours. Oui, pour faire les 25 ans, 24, dans ces cas-là. Et on a mis en place des concours. Et entre 2003 et 2004, on a terminé les 20 concours. Et le 1er avril 2004, il y avait des fonctionnaires de toutes les langues qui étaient prêts à produire les journaux officiels dans les 24 langues. Oui. Un concours, comme ça, ça prend 6 mois, hein, si on veut. Si on le fait simple. On peut le compliquer, et il peut durer 3 ans, le concours. Hein? Mais si on veut, on peut le faire en 6 mois, sans doute, et recruter les personnes. Et ça a été ma tâche principale, mis à part la gestion courante des autres aspects des ressources humaines dont je me suis occupé.
C'est ça, donc vous avez réussi le Big Bang.
Oui. Et ça a été très marrant, très sympathique, un grand défi, très dur. Mais bon, c'était vraiment formidable. Je dois dire que les 4 assistants qui ont travaillé avec moi pour cet exercice ont été vraiment exceptionnels. Ils ont laissé la peau, ces 2 années, ils ont laissé la peau, ainsi que les 2 personnes qui s'occupaient par la suite du recrutement des gens qui faisaient les concours. Et on a fait les concours dans les pays, on a fait les concours à Bruxelles, on a fait les concours à Luxembourg, en même temps, pour les mêmes langues, et on faisait chaque fois 5 langues. Et on a bien réfléchi quelles langues. On mettait ensemble en même temps. Et on a fait un système relativement simple, facile, et très efficace.
Et puis, on arrive en 2017 déjà, où tu arrives chez nous, à la DGT, et où tu deviens responsable donc, d'une unité horizontale non traduisante, qui est l'unité R4, Professional and Organizational Development. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots à nos auditeurs ce que fait notre unité? Parce que même au sein de la DGT, tout le monde n'est pas toujours au courant de ce que nous faisons.
Un petit mot, le plus bref possible, c'est... Donner support aux traducteurs. Soyons conscients. Hein? Les traducteurs peuvent exister sans nous, mais nous, on ne peut pas exister sans les traducteurs. Ça, c'est le slogan de l'unité. À l'intérieur de ça, il y a 2 grosses activités. Une activité qui va vers l'extérieur et une autre activité qui va vers l'intérieur toujours dans la direction de gérer la connaissance. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour se former. On n'a pas besoin d'avoir des gros budgets pour faire les partages de la connaissance. Alors, mais d'un côté, il faut avoir les contacts avec le monde extérieur, les universités, savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de former pour par la suite, hein, quelles sont les compétences de ces futurs traducteurs, qu'est-ce qu'on développe. Hein, il faut avoir les contacts avec l'extérieur, par exemple, en permettant les traducteurs d'aller visiter les universités, les entreprises, les administrations, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde réel. Mm-hmm. Le monde est aussi réel, mais comme une blague, on dit toujours qu'on va voir le monde réel. Mm-hmm. Il faut aussi se contaminer de ces stagiaires qui arrivent. Oui. Mm-hmm. Ça, c'est toute la partie externe. Oui. Mais après, il y a aussi une partie interne des gestions de la connaissance. Les traducteurs ont besoin de documentation pour pouvoir travailler. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a la bibliothèque. C'est en tant que centre de connaissances. Mm-hmm. Hein. Ce n'est pas par un luxe, ce n'est pas pour faire la photo. C'est parce que les traducteurs, ils ont besoin de bons dictionnaires. Maintenant, ils sont en ligne, avant, ils étaient papier, le monde change, mm-hmm. mais il faut être capable. Il faut que les traducteurs, que très souvent, ils sont des philologues, ou des juristes, comprennent qu'est-ce que c'est les produits laitiers, oui. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est les satellites. Ils ne sont pas des experts de ça. Mm-hmm. Ils doivent comprendre les contextes. Mm-hmm. Et pour comprendre les contextes, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui connaît, qui vient et qui les explique. Et à la commission et dans les institutions, il y a des experts mm-hmm. dans tous les domaines. Mm-hmm. Il faut uniquement, dans le bon sens du terme, les exploiter, mm-hmm. les faire venir, les faire qu'ils nous expliquent. Mm-hmm. Oui? Mm-hmm. Et il faut que les formations répétitives se fassent sous forme de modules e-learning, hein, pour qu'elles puissent être suivies tout le temps. Il y a toute une batterie d'activités, oui, qui peuvent être faites sans bouger, pratiquement sans rien, à coût zéro, mais qui peuvent permettre aux traducteurs, qui pour moi sont les réels protagonistes de la DGT, faire leur travail dans les meilleures conditions possibles du point de vue intellectuel. Mm-hmm. Je ne peux pas leur livrer une table ou une chaise, oui, ou une nouvelle lampe, mais je peux leur faire comprendre mieux quel est le paquet qui va venir de la DGNR dans deux mois. Parce qu'on va faire le nécessaire pour que ces collègues de la DGNR viennent ou fassent une émission de radio ou fassent une présentation ou fassent un module e-learning pour qu'ils puissent les comprendre s'ils ont besoin. Et c'est un peu ça l'idée en gros de l'unité. Et toutes les activités actuellement, il y a, je ne sais pas, une douzaine d'activités que nous suivons, que nous faisons. Et toutes ces activités ont cet objectif. Ne pas perdre le contact avec l'évolution du monde extérieur, d'un côté, et de l'autre côté, mettre à disposition de nos collègues les moyens nécessaires pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles.
Alors Fabienne, on peut dire que le fil rouge de ta carrière, hein, si on cherche à faire un bilan maintenant, ça aurait été l'humain. Hein, je pense que tu seras d'accord avec ça, que ce soit le recrutement, la gestion des ressources humaines, l'organisation de concours, la gestion des connaissances avec l'unité R4. Quel est ton meilleur souvenir de toutes ces années passées dans les ressources humaines au service de l'UE?
Et tu l'as dit, l'humain. Un ordinateur ne fonctionne pas s'il n'y a pas une personne qui, le matin, pousse les boutons pour les mettre à travailler. Alors, c'est ça qui compte, l'humain. Mmh. Et partout où j'étais, ce que j'ai rencontré, retrouvé, c'est l'humain, la personne. Et faire que les personnes se sentent créatives, utiles, nécessaires, importantes, serviables, que c'est qu'ils font sert à quelque chose. Mmh. Et on les trouve, hein, parce que les gens, ils connaissent bien. Les compétences et les connaissances, c'est quelque chose qu'on peut régler. Oui? Les caractères, non. Mmh. Alors, ce qu'il faut toujours être attentif, c'est à la personnalité de l'autre. Et si on arrive à comprendre les points forts, les points faibles, oui, il faut après essayer d'exploiter, dans le bon sens du terme, les points forts pour que cette personne te fasse une vraie contribution. Et une contribution pratique. Oui. Un document de 30 pages ne m'intéresse pas. Oui. Une action concrète, un résultat, oui. Quelque chose de concret qui vient, ça m'intéresse. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut que les papiers soient, si tu veux, l'excuse, les constats, mais les constats d'une réalité. Mais, s'il vous plaît, cherchons la réalité, pas les papiers. Alors, ce que j'ai appris, c'est l'humain, les facteurs humains. C'est ça qui est important. Alors, c'est l'humain, ça a été ma plus grande leçon. J'ai reçu, j'ai reçu de tous ces 36 ans de travail dans les ressources humaines.
Et oui, tu parlais des documents de 30 pages qui ne t'intéressent pas. Donc ça fait partie des choses qui ne t'intéressent pas dans les institutions européennes. Et alors, si on veut parler de choses que tu regrettes, est-ce que tu as un grand regret ou des grands regrets par rapport à ces 36 années passées dans les institutions?
Oui, j'ai un grand regret personnel. Mon grand regret personnel, c'est que lorsqu'on a fait la réforme du statut en 2004, j'étais le représentant du comité économique et social dans la préparation de ce nouveau statut. Et je n'ai pas été capable d'influencer assez pour éviter certaines choses qu'on a constatées par après dans cet statut, qui était une erreur des camions. Erreur terrible. Oui. Et là, les complexes petites institutions. On s'est trouvé devant les représentants des grosses institutions, commission, conseil, parlement, avec poids politique, machin truc, qui étaient nous, petit comité économique et social. Mmh. On était une petite miette au milieu de toutes ces grandes institutions. Non? Et là, peut-être je n'ai pas été assez assertive pour dire à mes collègues, écoutez, ne faites pas de folie. Ne faites pas de folie. Mmh. Une chose, c'est un assistant qui vous fait la programmation IT, ou qui a la responsabilité de suivi des dossiers des procédures de la Cour, ou qui valide un journal officiel. Et une autre chose différente, c'est un collègue qui vous fait le secrétariat. C'est deux mondes différents. S'il vous plaît, n'inventez pas une catégorie du personnel sous-payé. Ne créez pas des discriminations humaines. Des personnes qui font le même travail et qui ont la moitié du salaire. Et ne coupez pas les échelons. Parce que vous êtes en train d'alimenter la guerre pour les promotions. Quand les promotions, c'est quelque chose qui doit être marginal et qui maintenant est en train de devenir essentiel. Parce que lorsqu'une personne arrive à l'échelon 4, il va paniquer. En revanche, s'il y a 8 échelons, on arrive à l'échelon 4, c'est normal. Mais maintenant, avec 5 échelons, dont les dernières, c'est un faux échelon parce que c'est les mêmes valeurs que les premiers échelons du grade suivant, vous êtes en train de provoquer la panique. Et vous êtes en train d'alimenter un conflit social inutile. Et ça, c'est pour donner 3 exemples d'erreurs. Je l'ai dit, c'est pas que je n'ai pas dit. Mais là, je regrette de ne pas avoir été plus convaincant vis-à-vis de mes collègues. Je pensais qu'ils connaissaient mieux que moi les statuts. Après, j'ai compris que non, ce n'était pas vrai. C'est pas vrai. Ils ne les connaissaient pas mieux. On est resté un peu trop timide. J'ai eu un peu le support et l'aide du représentant de la Cour de justice. C'était mon grand ami et professeur, Claude Desroches, malheureusement décédé. Ça, c'est, je regrette. Je regrette parce qu'on est en train de subir les conséquences.
Et maintenant que tu es à la DGT et que tu es sur le point de quitter la DGT et de nous quitter pour une nouvelle vie, est-ce que tu as des souhaits pour la DGT, pour l'avenir de la DGT?
Ce week-end, j'ai eu la chance, grâce à certaines personnes, d'aller à la foire de Francfort. Et dans la foire de Francfort, j'ai lu un slogan à la gare. Et le slogan de la gare était « Traduire les mots, échanger l'esprit ». Il faut que quelqu'un comprenne une fois pour toutes que mon cousin, qui est secrétaire général d'une coopérative agricole en Espagne, il ne va pas chercher la loi qui le concerne, il ne va pas le chercher en anglais. Que s'il n'est pas en espagnol, elle n'existe pas. S'il la trouve uniquement en anglais, en français, en allemand, il va dire, vous, les surocrates, vous êtes des nouilles. On ne veut rien de vous. On ne s'intéresse pas à vous. Si ça n'existe pas dans la langue, il peut lire et comprendre. Lire et comprendre. Oui. Et on lit et on comprend parce qu'il y a quelqu'un qui les traduit. Oui. Pour un exemple, moi je suis un littéraire des cœurs et d'âme. La littérature universelle existe parce qu'elle a été traduite. Si Goethe n'aurait pas été traduit en espagnol, quand j'avais 16 ans, j'aurais pu jamais les lire. Et si 100 années de solitude n'aurait pas été traduit en anglais, oui, tout le monde anglophone n'aurait jamais connu. Et on ne dirait pas que ça appartient à la littérature universelle. Et je parlais de la littérature comme on pourrait parler des problèmes de santé. On pourrait parler, c'est-à-dire, l'universalisme existe parce qu'il y a quelqu'un qui le traduit. Et si la DGT n'existe pas, à la commission, oui, la commission peut dire ce qu'elle veut, oui, mais personne ne va l'écouter dans les pays. Les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les vrais patrons de cette boutique, les vrais patrons, c'est ce monsieur qui est maintenant dans la rue et qui paye ses impôts. Et qu'une partie des impôts arrive ici. Oui? Ça, c'est les vrais patrons. Il faut que quelqu'un, une fois pour toutes, arrête la rigolade de dire que bah, ça, la machine peut le faire. La machine ne fait pas. La machine, c'est un outil. C'est comme un bic. Oui? C'est comme un ordinateur. Elle est formidable. Elle est très bon. Elle va nous aider. Oui? Mais s'il n'y a pas une personne derrière qui va transformer ça dans une nouvelle langue, oui. C'est transformer un document dans une nouvelle langue. Est-ce qu'il faut se rendre compte de qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment un miracle, hein, de tous les jours.
Et dis-moi, tu parlais de littérature et tu disais que tu étais un littéraire d'âme et de cœur. Est-ce que la littérature va faire partie de tes projets d'avenir une fois que tu auras quitté la DGT et la commission?
Oui. La littérature sera une grande partie de ma vie. Bon, la littérature, c'est un dada personnel, c'est un amour intime. Je ne peux pas me coucher sans savoir lire quelques poèmes ou un morceau d'un roman. Je n'arriverai pas, dans les années qui me restent, je n'arriverai pas à lire tous les livres que je veux lire.
Je crois qu'on va terminer sur ces mots-là. Je crois que nous arrivons déjà au terme de notre émission. Voilà, un grand merci, Fabiane, de la part de toute l'équipe, hein, pour ton travail et pour voilà, ces années de collaboration avec toi. Et merci également d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir partagé avec nous plus de 30 ans d'expérience au service de l'Union européenne.
Merci à vous. Ça a été un plaisir.